Nous attendons tous ce jour glorieux et espérons qu'il arrivera très bientôt. Le plus tôt sera le mieux. Nous avons déjà entendu une parole merveilleuse, glorieuse, et tous ont déjà été accueillis dans le précieux nom du Seigneur. Que Dieu nous bénisse, soit avec nous et se révèle à nous. Je vais lire beaucoup d'extraits d'une prédication de Frère Branham aujourd'hui et demain, et aussi des écritures à ce sujet, et j'espère que Dieu nous bénira. Vous savez comment c'est quand on va en voyage? Alors nous prenons la parole de Dieu, la Bible, et nous la prêchons. Mais ici, dans ce lieu, nous prenons la liberté de regarder aussi les précieuses pensées que Frère Branham a exprimées dans les prédications et de les prendre à cœur. Aujourd'hui et demain, je garderai un ton modéré. J'ai prêché avec un peu trop de force en Afrique et je me suis emporté là-bas, alors je ne me sens pas très bien. Nous avons déjà lu un passage d'Ésaïe 55. Je voudrais encore lire les versets 10 et 11. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en est de même de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi à vide, mais seulement lorsqu'elle a accompli ce que j'ai voulu, lorsqu'elle a produit ce pourquoi je l'ai envoyé. Prions encore. Prions à nouveau. Père céleste, Dieu de toute grâce et de tout réconfort, ta parole est une parole sainte, une parole vivante, une parole dans laquelle se trouve la puissance créatrice, salvatrice et guérisseuse, une parole qui ne peut revenir vite, qui ne peut revenir à vite, sans effet. Une parole toute puissante qui accomplit ce que tu l'as envoyé faire. Par ta parole, tout a été créé, Seigneur. Tu as parlé et tout s'est accompli. Tu as ordonné et tout s'est tenu là. Tu veux nous faire taire aujourd'hui dans ta présence et nous bénir des richesses de ta grâce. À toi, nous rendons toute gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais lire un extrait de cette parole, donc plusieurs extraits de cette prédication. La parole est la semence originelle. Et comme je l'ai déjà dit, je voudrais aussi lire les passages bibliques nécessaires. À la page 3, je lis la dernière partie de la prière, deuxième section. Seigneur, tu m'as mis à part dès le sein de ma mère, tu m'as nourri tous les jours de ma vie et par ta grâce, tu m'as amené à cette heure. Je sens que c'est ta volonté que j'explique aux gens pourquoi j'ai agi et fait ce que j'ai fait. Que ce soit une certaine manière, Seigneur, que les hommes puissent mieux comprendre l'étrangeté de ton esclave serviteur. Accorde ces choses, Père, que les Écritures, le texte et les paroles que j'ai notées pendant la semaine en priant et en faisant des recherches puissent tomber sur un bon sol, là où ils sont entendus. Un sol qui peut les recevoir et les nourrir. Alors toutes les louanges te seront offertes. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous savons qu'il en était ainsi sur le cœur de frère Branham à cause de l'appel divin à apporter le dernier message dans cette dernière génération, dans le dernier âge de l'Église, comme nous le soulignons souvent, la parole de l'heure, les promesses de Dieu qui sont destinées à l'Église pour ce temps. Et il a pris ça très au sérieux. Et nous remarquons aussi qu'il notait des passages de la Bible dans la semaine pour les lire, pour les apporter, pour en créer l'Église dans la parole. Un homme de Dieu ne prêchera jamais par cœur. Il prêchera toujours en lisant. Il ne prêchera jamais sans lire, mais il lira toujours. C'est-à-dire qu'il apportera la parole. Et nous croyons, comme nous l'avons aussi souvent souligné, que cet homme de Dieu était un prophète à qui la parole du Seigneur est sortie, est venue, et qu'il l'a ensuite apportée. Il y a une semaine, donc samedi dernier, j'ai été témoin d'un incident très pénible à Nairobi, devant environ 3000 personnes. Il y avait des gens qui se référaient à Branham et qui apportaient soudainement du matériel sur la plateforme. Et au lieu de le mettre entre mes mains, ils l'ont mis entre les mains d'un homme qui a immédiatement mis donc le feu à la chose, comme pour dire, et fait quelques remarques. Mais j'ai pu régler cela immédiatement et réparer les dommages qui auraient pu être causés par l'aide et la grâce de Dieu. Nous savons que partout, là où Dieu agit, l'ennemi essayera aussi de faire quelque chose pour arrêter, pour décourager, pour retenir. Mais tenons bon, persévérons, croyons la parole. Comme nous l'avons déjà dit assez souvent, nous portons d'abord les promesses. Puis, le moment venu, les promesses nous portent. Nous entrons alors en possession de ce que Dieu a promis dans sa parole. À la page 6 de la dite prédication, après le texte biblique de la Genèse 1, il est souligné à maintes reprises que chaque semence produit selon son espèce. Et ce sera le thème, chaque semence produit selon son espèce. Je lis selon le texte de la Bible. Pour mon texte de ce matin, je voudrais m'appuyer sur le thème suivant. La parole parlée est la semence originale. Je voudrais baser mes remarques sur ce point. La parole parlée est la semence originale. Remarquez, Dieu a dit que chaque semence produise selon son espèce. Peu importe ce que c'était, ça devait produire selon son espèce. Ça, c'est une loi de la nature dans le terrestre et le spirituel. Dans l'humain et le divin, tout produit selon son espèce. Et vous verrez dans quelle profondeur l'Esprit de Dieu a conduit et guidé frère Branham Et combien cette prédication et une autre prédication qui a été prêchée avant l'ouverture des sceaux sont importantes. Je continue à lire. La parole de Dieu est éternelle. Dieu, qui est infini, ne peut pas dire quelque chose et ensuite le changer ou prendre une meilleure décision. Car toute décision de Dieu est parfaite. Il ne peut pas changer sa parole. Si une fois il a prononcé sa parole, il ne peut jamais, et ce qu'il a dit ne peut jamais mourir et est annulé. Sa vie, et sa vie toujours, il ne peut jamais mourir. Car c'est Dieu. Sa parole ne peut pas plus mourir que lui-même ne peut mourir. C'est pourquoi nous lisons dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Et la parole s'est faite chair. La même parole qui a été prononcé au commencement pour un but éternel est descendue elle-même, s'est faite chair et a habité parmi nous la parole de Dieu. Nous sentirons et remarquerons même que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a conduits dans la parole encore et encore pendant toutes ces années. Ce n'est pas notre mérite, ni notre connaissance ou notre capacité, mais l'Esprit de Dieu qui crée un lien direct dans les vrais croyants avec la parole de Dieu, à la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu ne passera jamais à côté de la parole. Il conduira toujours à la parole et dans la parole. Et c'est ce que nous allons voir. Ensuite, à la page 7, je lis le deuxième paragraphe. Il n'y a qu'une seule possibilité d'arrêter cette voix qui dit ce qui n'est pas juste, c'est en se répentant. Seul Dieu peut arrêter cette voix. Nous remarquerons comment deux choses sont mises en contraste ici. La parole et ce qui est dit sur la parole. La parole comme la semence originale et l'autre comme l'interprétation. Il poursuit en disant, si la repentance n'a pas eu lieu et la correction n'a pas été faite, cela continuera et cela vous confrontera pour l'éternité. Parce que Dieu est parfait, parce que Dieu est parfait et que sa voix est éternelle, ce qu'il a dit doit être cohérent avec sa parole. Par conséquent, chaque décision qu'il prend doit être parfaite. Une fois qu'il a dit quelque chose, ça doit être maintenu jusqu'au jugement. Puis nous lisons maintenant l'avant-dernier paragraphe. Nous savons que nous recevrons un jugement. Quelque part, la voix de Dieu nous rattrapera. Ce que Dieu a vraiment dit nous rattrapera. Car chaque mortel devra l'entendre. Les prédicateurs ont la responsabilité de la transmettre, de la porter. Ainsi, si la voix de Dieu doit rattraper chaque homme, si ce que Dieu a dit doit rattraper chaque homme, alors vous aurez l'occasion de l'entendre, soit ici déjà, soit au jugement. Si la voix de Dieu était dans une église, alors vous devriez écouter la voix d'une église. Nous pouvons nous arrêter là, en toute sécurité, nous n'avons pas besoin de lire plus loin ici. La voix de Dieu reste sa parole pour l'éternité. Et pour l'éternité, cela reste valable ce que le Seigneur disait. Mes brebis entendent ma voix. Ils ne suivront pas un étranger. Les vrais enfants de Dieu Écoute la parole de Dieu. Et le Seigneur disait alors autrefois, comment se fait-il que vous ne puissiez écouter mes paroles parce que vous n'êtes pas de Dieu? À partir de la page 8 au dernier tiers. Mes frères, quand je dis cela maintenant, je ne parle pas seulement de ce petit groupe qui est ici aujourd'hui, mais aussi de ceux du monde entier à qui ces bandes sont envoyées. Pas seulement un petit groupe. C'était un petit groupe à qui il a été prêché. C'était un grand groupe pour qui les prédications tenues étaient destinées, étaient prévues. Il en a de même aujourd'hui. Il se peut que nous nous réunissions ici en tant que petit groupe et quand nous réalisions soudain que ce qui se passe ici à petite échelle se passe dans le monde entier à grande échelle. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela aussi. Dernier paragraphe. Je crois que le Dieu souverain, ce qu'il est, l'Éternel, doit s'en occuper. Si je veux aller au ciel là où il demeure, il doit me donner quelque chose sur quoi m'aligner et savoir ce que j'ai à faire et savoir quoi faire. Quelque chose sur lequel je peux poser ma main et dire, c'est ça. Êtes-vous d'accord avec cela? Il doit y pourvoir, sinon il serait injuste. Dieu a fait en sorte que nous puissions mettre notre main, notre doigt sur les passages de la Bible et dire, ici, c'est écrit. C'est ce que Dieu nous a promis. Nous nous y plaçons dans la foi. Nous pouvons mettre nos pieds sur ce que Dieu a, sur ce que Dieu nous a promis, mettre nos mains dessus. Nous pouvons nous y fier complètement. Dieu s'en tiendra à sa parole. Je lis la deuxième partie. Regardez, vous devez avoir quelque chose dans lequel votre foi peut se reposer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, la Bible est la parole infaillible de Dieu. Je crois que Dieu a tellement veillé sur sa parole que même la ponctuation est correcte. C'est une expression très puissante, car beaucoup voudraient ajouter quelque chose à la parole, n'est-ce pas? Mais voici un homme qui a dit, je crois que la Bible est la parole infaillible de Dieu et que nous appuyons sur elle. Il dit aussi ici, notre foi doit pouvoir se reposer quelque part. Et vous pensez tous à Hébreux 4. Josué n'a pas réussi à amener le peuple d'Israël dans le repos. C'est pourquoi il est écrit, il y a encore un repos pour le peuple de Dieu. Je crois que tous ceux à qui la parole de Dieu a été révélée pour ce temps se reposent en elle. Ils ne se laissent plus aller à des mouvements de va-et-vient. Ils savent que c'est vrai. Ils ont trouvé le repos en Dieu. Le va-et-vient a cessé. Ils se reposent dans la foi en Dieu. Le dernier tiers de la page 9. Avec cette foi en la parole, je ne peux accepter aucune interprétation. Car la Bible dit qu'elle ne permet aucune interprétation arbitraire. L'Esprit vient de le révéler. Remarquez-vous. Fraîchement, l'Esprit de Dieu l'a averti a mis cela sur son cœur pendant qu'il parlait, que l'Écriture ne permet pas une interprétation arbitraire. Il pensait sûrement à 2 Pierre chapitre 1, verset 20 et verset 21. Selon lesquels aucune prophétie des Écritures ne permet une interprétation arbitraire, car des hommes saints ont parlé poussés par le Saint-Esprit. Il dit ici, l'Esprit vient de le révéler. Je connais l'Écriture, mais je ne sais pas où elle se trouve. Pour le moment, vous pouvez l'écrire et vous le retrouvez. Je veux dire, il est dit dans la lettre de Pierre que la Bible ne permet aucune interprétation arbitraire. Pas même la Bible, nous le savons, et nous aimons en prendre note. Mais combien d'interprétations ont été ajoutées arbitrairement aux prédications de frère Branham? Combien? Et les gens vont dans toutes les directions. Je poursuis la lecture. Donc, si un écrivain inspiré avait dit quelque chose de pas juste, qu'est-ce qui ne serait pas juste alors? Soit c'est tout à fait vrai dans la Bible, soit ce n'est pas vrai du tout. Il ne peut pas être autrement. Et nous le croyons tous. Il ne peut pas en être autrement. C'est vrai de A à Z. La Bible est vraie de A à Z. Je lis les deux dernières ligne. Pour moi, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu où ma foi peut se reposer. Car je crois que la Bible contient le programme de Dieu pour l'humanité. Et ce, depuis des temps. Donc, depuis toujours, Jésus a dit que les Écritures devaient s'accomplir. Il s'agit de tout ce qui est écrit dans les Écritures. Gardez cela à l'esprit. Car même vous qui écoutez la cassette plus tard, vous constaterez que je reviens sur ces choses à la fin. Tout ce qui est écrit doit s'accomplir. Je veux m'étendre un peu plus sur ce sujet. Chers auditeurs, tout ce qui est écrit dans les Écritures doit s'accomplir. Or, si Dieu a dit quelque chose, voilà, cela doit s'accomplir. Cela doit s'accomplir. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est également vrai à 100%. Ce que Dieu a promis, il le tient certainement. Avant que Dieu ne fasse une promesse, avant qu'il ne la prononce, il a déjà devant lui la chose qu'il veut promettre comme une partie fixe de son plan de salut, comme une partie intégrante et comme une substance de son plan du salut. Et rien ne peut changer cela. Il poursuit, si ce n'est pas la parole de Dieu, alors nous sommes tous perdus. Mais si c'est la parole de Dieu, si la Bible est la parole de Dieu, alors Dieu est lié à elle pour le bien de sa gloire. Dieu est la source de toute gloire. Il est le commencement de toute la gloire. Il est la source de tout honneur. Il est la source de toute vérité. Par conséquent, il doit s'en tenir à ce qu'il a dit. Si ce n'est pas la parole de Dieu, alors qui est Dieu? Mais la Bible est la parole de Dieu. Et nous savons qui est Dieu. Dieu est omniscient pour Sion. Il est connu dans Sion. Nous ne sommes pas ceux qui vivent à Athènes, où il y a un autel à un Dieu inconnu, mais nous croyons avoir connu Dieu et avoir été connu par Dieu, n'est-ce pas? Nous croyons que nous avons connu Dieu en Jésus-Christ et que Dieu nous a également connus en Jésus-Christ, que nous avons été réconciliés en lui. Quatre dernières lignes de la page 10. J'ai souvent dit que ma foi ne se levait peut-être pas aussi haut que celle d'Enoch. Mais je ne me mettrai certainement pas à la place de quelqu'un en travers son chemin. Mais je ne me mettrai certainement pas, je ne me mettrai certainement pas en travers du chemin de quelqu'un qui pourrait se lever si haut avec une grande foi. J'ai maintenant exposé comme base les raisons pour lesquelles je crois la Bible. C'est de là que je tire mon texte. Ensuite, permettez-moi de dire que je ne crois pas que la Bible se contredise. Non, ça nous ne le croyons pas. Ça, nous n'y croyons pas non plus. Nous ne croyons pas que Dieu puisse se contredire. Non, nous ne le croyons pas. S'il y a une contradiction, elle se trouve dans la pensée des hommes, mais pas dans la parole de Dieu. Alors c'est là où il n'y a pas de révélation divine qui peut avoir des contradictions. Il peut y avoir là des contradictions. Il peut y avoir des contradictions, mais pas dans la parole de Dieu. Et pas chez ceux à qui la parole a été révélée. Il poursuit en disant ici, c'est pourquoi certains disent qu'il y a une contradiction entre Matthieu 28, verset 19, où il est écrit, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et entre Actes apôtres 2, verset 38, où il est écrit, repentez-vous et soyez tous baptisés au nom de Jésus-Christ. Ils disent qu'il y aurait là une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. Est-ce que nous pouvons dire tous amen à cela? Il n'y a pas de contradiction ici. Pouvons-nous tous dire amen? Ce n'est pas une contradiction. Au contraire, il s'agit d'une révélation par le Saint-Esprit. Ici, la commission, là son exécution. Mais tout comme certaines choses divines, particulièrement précieuses, ne se trouvent pas justement à la surface. Il en va de même pour le passage biblique de Matthieu 28. De Matthieu 28. Je lis encore les deux dernières lignes de la page 11. J'espère que je ne suis pas celui qui blesse quand quelque chose est blessant. J'essaie simplement d'expliquer pourquoi je crois ce que je crois et pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait ou ce que j'ai fait. J'essaie de montrer au monde que j'ai fait cela parce que c'est ma conviction. Je ne crois pas qu'un seul mot doit être ajouté à cette Bible. Nous disons amen à cela aussi. Pas un seul mot ne peut être ajouté à cette Bible. De plus, quiconque se rendra coupable de cela, sa part sera retirée du livre de vie. Apocalypse, chapitre 22. Nous connaissons tous cette évidence et cette pensée, nous n'avons pas besoin d'y revenir. Les trois dernières lignes de la page 12 maintenant. Surtout pour ceux qui écoutent les cassettes, je veux rendre cela compréhensible. Maintenant que je vous ai expliqué pourquoi je crois la parole et ce que Dieu y dit, et que rien ne peut y être ajouté et que rien ne peut en être retranché, je voudrais maintenant entrer dans la partie voilée, dans le contexte de ce texte que j'ai choisi et vous expliquer et vous montrer ce qui s'est passé. Alors vous pourrez voir pourquoi je crois ce que je crois. Vous savez, Paul pourrait dire, je sais en qui je crois. Et il savait aussi ce qu'il croyait, c'est-à-dire la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Nous croyons qu'il en a été de même avec frère Branham à propos. Maintenant, le milieu de la page. Quel est mon sujet? La parole parlée est la semence originale. Je veux le faire, je veux le prouver. Laissez-moi ou laissez-nous ouvrir Matthieu 25, verset 35. Et puis il vient au texte ici, en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Donc c'est Matthieu 24 plutôt, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Quelle parole de notre Seigneur? Et frère Branham l'a également souligné ici. Maintenant, à la page suivante, derrière le texte biblique. Même si quelqu'un est un prédicateur, même s'il appartient à l'Église toute sa vie, même s'il est un évêque ou un pape, quiconque retire des paroles de ce livre, de prophétie, un seul mot, comprenez-vous que c'est un seul mot dont Ève a douté, qui a causé tous ses problèmes. Ève a douté qu'une seule parole de Dieu soit, elle a douté qu'une seule parole que Dieu a prononcée soit la vérité. Et c'est la cause de toutes les maladies, de toutes les souffrances, de tous les enfants malades, de tous les hôpitaux qui doivent être construits, de toutes les opérations qui sont pratiquées, de la mort, de tous les hommes qui meurent, parce qu'un homme, une parole, n'a pas été crue par un homme. Voilà, c'est fait. Nous remarquons l'importance que frère Branham accorde à chaque parole de Dieu. À chaque parole. Et nous aussi, nous devrions prendre la parole de Dieu au sérieux. Et la croire du fond du cœur, même si nous n'en voyons pas encore l'accomplissement. Car nous savons que ce que nous voyons, on n'a pas besoin de le croire. Car cela est déjà là. Non, la foi est une confiance, une substance qui espère ce que Dieu a promis, mais ne le voit pas encore. Dernière partie de la page 14. C'est pourquoi nous croyons qu'il s'agit de la parole de Dieu. Parce que la parole parlée de Dieu est l'original. Est l'original. Tout ce que Dieu a créé, ce qu'il a fait exister, est dans sa forme originelle. Ce qu'il a créé ne doit pas être croisé, sinon cela devient inférieur. Et cela n'est plus sa forme originelle. Il a également parlé en détail de ce sujet. Vous avez tous lu les prédications. Elle ne doit pas être croisée. Elle ne doit pas être mélangée. La parole doit rester dans l'original, dans sa forme originale. Page suivante. Deuxième paragraphe, pardon. Je prends mon temps. Surtout pour ceux qui vont entendre les bandes. Je ne veux pas me presser. Je veux prendre mon temps. Je ne sais pas ce qui va se passer à partir de maintenant. Mais je veux apporter cela aux gens pour que ce message continue à vivre même si Dieu me retire un jour du monde. Dieu s'est occupé de cela aussi. Il s'est exprimé ici, je veux que ce message continue à vivre si Dieu m'enlève un jour du monde. Si je ne vis pas jusqu'à sa venue, son retour, c'est vrai. Respectez la parole de Dieu. Restez attachés à elle. Rappelez-vous, chaque parole de Dieu prononcée est la semence originale. Par sa parole, Dieu a tout planté sur la terre. Tant que vous restez fidèles à la semence originale, elle se reproduira. Elle se reproduira à nouveau d'elle-même. Si vous la croisez, elle meurt. Ève, la femme, a fait le premier croisement qui a eu lieu. Dernier paragraphe. La vraie vie ne peut se multiplier et renaître que par sa procréation originelle. Procréation originelle. Approfondissez cette question en écoutant les cassettes. Pensez-y même maintenant. La vie ne peut renaître que par la reproduction originale, car elle a commencé au début. Telle qu'elle a commencé au début. Et elle a commencé au début, puis elle s'est reproduite. Si ce n'est pas le cas, alors c'est un croisement et ça disparaît. Et si elle ne se reproduit pas, ça veut dire que c'est un croisement et ça, elle disparaît. Frère Branham en vient alors à des exemples. Vous pouvez tous relire la prédication. Je vais maintenant lire les deux dernières lignes de la page 16. Puis je passerai à la page 17. Chaque génération a donc son propre renouveau. Dieu, son propre réveil. Dieu prend un homme, l'établit dans sa parole et l'envoie avec un message pour cette époque. Dès que cet homme n'est plus là, quelqu'un d'autre en prend possession et croise le message et tout retombe complètement. Tout retombe. J'ai sauté plusieurs choses ici. Il a parlé de l'époque de Wesley et des différentes périodes de développement, des différents réveils, de la façon dont Dieu a toujours créé à nouveau un nouveau départ. Mais au lieu d'avancer dans la bonne direction, la génération suivante est arrivée et tout a été organisé et tout est retombé dans l'ancien état. Je poursuis maintenant ma lecture et voici quelque chose d'extraordinaire, roman important que j'ai moi-même lu aujourd'hui pour la première fois et que j'ai également vu de cette manière. Beaucoup ont posé des questions sur Matthieu 25 et aussi sur qui sont les vierges sages et qui sont les vierges folles. Ici, il semble y avoir une réponse qui nous traversera. Il est dit ici dans le paragraphe, n'a-t-il pas enseigné qu'un roi envoyait ses esclaves serviteurs, puis d'autres esclaves serviteurs et toujours d'autres jusqu'à ce qu'enfin il envoie son fils? Maintenant, écoutez attentivement. Chaque génération a reçu la parole de Dieu. La même chose qu'avec Adam et Ève lors de la première récolte dans le jardin d'Éden. Cela se répète encore et encore. La moitié se perd, la moitié périt. Donc, il y a les vierges sages et les vierges folles. La moitié a gardé la parole de Dieu, la moitié de la garde la parole de Dieu. Les autres l'ont croisée. Vous voyez de quoi il s'agit? Il s'agit de la semence originale dans les vrais enfants de Dieu, mais qui ne croise pas et ne mélange pas la parole de Dieu de nouveau, mais reçoit la parole de Dieu telle qu'ils l'ont entendue sans y ajouter aucune interprétation. Je le lis à nouveau. La moitié périt. Il y a les vierges sages et les vierges folles. La moitié d'entre elles ont gardé la parole de Dieu. Les autres l'ont croisée. Cela s'est répété encore et encore de la même manière à travers tous les âges. Nous allons le prouver avec la parole de Dieu et l'histoire. C'est pour moi une parole très puissante. J'ose dire que tous les vrais enfants de Dieu, que ce soit que pour eux on utilise le terme épouse ou vierge sage, cela n'a pas d'importance maintenant. Mais il y a une chose qui sera claire en eux. L'Esprit Saint qui a inspiré et donné la parole et qui l'a maintenant révélé à nouveau et placé sur le chandelier. L'Esprit de Dieu nous la révélera dans sa forme originale et ainsi nous la croirons ainsi et la recevrons ainsi et nous n'interpréterons rien, mais nous croirons jusqu'au bout la parole originale de Dieu, à moins que nous soyons fous, afin que nous soyons des folles. Alors nous l'interpréterons de telle façon aujourd'hui et de telle autre demain. Puis nous courons après cette chose aujourd'hui et cette chose demain. Mais si ce n'est pas le cas, alors le cantique des cantiques se réalise. Attire-moi et je me hâterai après toi. Si c'est l'époux qui est la parole, qui nous a parlé, alors en tant qu'épouse, nous dirons en accord avec l'Esprit ce qui nous a été dit. Il faudra alors qu'il y ait un accord complet. La clé est donnée ici. Les vierges sages, comme Marie, gardent dans leur cœur la parole de la promesse divine dans leur âge. Elles y croient et elles la voient s'accomplir. Les folles interprètent, croisent, mélangent et ensuite elles perdent ce qu'elles ont reçu. Une interprétation n'est jamais plus l'original et ne le sera jamais. Pourquoi avons-nous pris position avec tant de sérieux jusqu'à la dernière conséquence pour et sur la parole de Dieu, à la grande tristesse de certains, mais à la joie de notre Dieu qu'il y a encore des gens sur terre qui ont un lien par l'Esprit avec la parole de Dieu. Et disons calmement au Seigneur, la parole de Dieu est devenue précieuse pour nous. Il a rendu sa parole grande et glorieuse. Elle a été tordue assez longtemps. Malheur à l'homme qui maintenant, que le temps des déformations et des interprétations est terminé et que la parole a été révélée dans l'original, dans sa forme originale, malheur à celui qui la déforme à nouveau et égare ensuite les gens. Ici est montré exactement où se trouvent les vierges sages et les vierges folles. Les sages reprennent la parole originale, s'y reposent en Dieu, la croient et la voient s'accomplir. Les folles la croisent et la mélangent, l'interprètent comme ils veulent, comme elles veulent, et ne la verront certainement pas accomplir. Marie pouvait dire, « Je ne connais pas d'homme. » C'est un beau témoignage. En anglais, c'est le même mot pour l'homme et l'humain, pour l'homme et la personne et l'être humain. Je ne connais aucun homme. Je ne connais pas d'homme. Mais Paul pouvait dire, je n'ai pas reçu la parole d'un homme, par un homme, ou je ne l'ai pas apprise en classe, mais je l'ai reçue par révélation de Jésus-Christ. Et c'était toute la différence. Nous croyons la même chose que frère Branham. Il ne l'a pas appris, moi non plus. J'ai dit que ceux qui avaient été enseignés par Dieu ont toujours dit ce que Dieu avait à dire et continueront à le faire. Ici, il s'agit de la révélation. Il s'agit de demeurer dans la parole. Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, c'est ça le secret et le mystère. Et Dieu rendra cela encore plus grand pour nous. À la page 18, je lis la dernière partie du verset biblique de Jean 3. Jésus répondit, je le dis en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. et que cela est une semence. Chaque parole de Dieu parlée est une semence. C'est vrai. Je suis sur le point de prouver que Jésus le disait. Chaque parole parlée de Dieu est une semence. À moins que quelqu'un ne soit né de nouveau. Pourquoi doit-il naître à nouveau, naître de nouveau? Parce qu'il est mort dans la chair où il se trouve. Il est un croisement. Il doit naître de nouveau. Pourquoi? Parce que à cause du péché d'Ève, il est né dans le péché, façonné dans l'injustice, déjà né menteur. C'est un menteur depuis le début, peu importe qu'il soit intelligent, éduqué ou autre. C'est un menteur. C'est ce que dit la Bible. Peu importe la sainteté de ses parents, il est un menteur depuis le début. La seule façon pour quelqu'un de dire la vérité, c'est de la dire de ses propres lèvres, de prononcer de ses propres lèvres la vérité. Ce n'est que de cette manière que la vérité peut être révélée. Contrairement à cela, celui qui parle contrairement à cette parole est encore un menteur. Vous savez, dans Romains 4, verset 3, il est écrit, « Dieu seul est vrai, est véritable, et tout homme est un menteur. » Mais un menteur est aussi fondamentalement celui qui ne dit pas la vérité. Et quelle est la vérité? La vérité est la parole de Dieu. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Et celui qui ne prêche pas et n'apporte pas la parole de Dieu de manière originale, dans sa forme originale, ment aussi au peuple de Dieu depuis la chair, depuis le podium. Et que dit Paul? Qu'est-ce que Paul écrit dans 2 Thessaloniciens? Qu'ils ont reçu une puissance d'égarement parce qu'ils n'ont pas cru la vérité. Ils sont poussés à croire au mensonge. Parce qu'ils n'ont pas cru la vérité. Dieu veut que nous naissions de nouveau. C'est-à-dire que nous devenions véridiques afin que nous puissions ensuite recevoir la parole en nous avec véracité, la croire de tout notre cœur et remercier Dieu. De ne rien dire que Dieu n'a pas dit. Pour ne rien dire de plus que Dieu n'a pas dit. Et ce que nous disons, disons-le comme Dieu l'a dit, sans aucune modification. Je sais que nous formulerions certaines choses différemment. Mais nous avons appris à nous approcher de Dieu avec révérence, avec crainte et dire, Seigneur, comme tu l'as dit, c'est juste. C'est ainsi que c'est juste. Donc seulement quand nous disons exactement à 100% ce que Dieu a dit, quand nous pouvons dire, c'est ainsi qu'il est écrit. Et cela dans le bon contexte. Et juste comme Dieu l'a dit et a fait écrire. Alors, c'est à ce moment-là seulement que la vérité divine, à savoir la sainte parole de Dieu, franchit notre lèvre, nos lèvres. Je lis la suite, c'est très clair. Mais c'est ce que Dieu a dit. Cela reste ainsi. Dieu est véritable. Dieu est vrai. Quoique tout homme soit menteur ou non. Oui ou non. Si quelque chose lui vient aux lèvres, qui est contraire à cette parole et qu'il le nie, ou s'il dit que cela s'applique à un autre peuple ou à une autre génération, alors il est un menteur. C'est exactement ça. Il doit naître de nouveau. Alors, il reconnaît chaque parole de Dieu. Je relis la phrase. Il doit naître de nouveau. Alors, il reconnaîtra chaque parole de Dieu, tel que Dieu l'a dit. Si un homme est vraiment devenu une nouvelle personne dans son cœur, un homme nouveau dans son cœur, alors Dieu a préparé quelque chose dans son cœur pour pouvoir mettre sa parole dans le cœur nouveau. Non pas pour mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, mais du nouveau vin dans de nouvelles outres, en sorte que le vase et le contenu sont tout de nouveau. Il doit naître de nouveau pour cela. Alors, il réalise, il reconnaît chaque parole. Loué soit Dieu. Alléluia. Ensuite, nous demandons à Dieu un renouvellement complet et une nouvelle naissance par le Saint-Esprit, un remplissage et une onction par le Saint-Esprit pour reconnaître chaque parole dans son sens, dans son sens, dans son contexte et dans son accomplissement. Le seul moyen pour lui de naître de nouveau est que la vie de Dieu produise cette vie en lui. Il a fait apparaître. Ici, frère Branham en vient maintenant au fait. Toute semence produit selon son espèce. Comme nous tous venons terrestrement du premier Adam, ainsi spirituellement, par nécessité, si Christ est le commencement de la création de Dieu, nous devons venir de lui, être ici et issu de lui, être sorti de lui comme fils et filles de Dieu. Poursuivons la lecture. Une semence a besoin d'eau pour pousser. Si vous mettez des graines dans le sol et qu'il n'y a pas d'humidité, ce n'est que de la poussière. Les graines ne pousseront pas. La semence ne pourra pas pousser. Elle ne peut pas s'y développer. À un certain degré d'humidité, un certain degré d'humidité doit être présent pour que la semence se développe, le grain se développe. C'est vrai, c'est bien ça. Vous voyez, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Elle a besoin d'humidité pour pouvoir se développer et croître. Nous lisons la parole de 2 Corinthiens 3, verset 6 ici. Nous l'avons lu mercredi soir. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et les choses spirituelles doivent être jugées spirituellement. Ce n'est pas celui qui pense ou se donne des airs spirituels, mais celui en qui l'Esprit de Dieu a pu créer quelque chose de nouveau pour se connecter à Dieu et avoir et rétablir la relation et la connexion avec Dieu. Il continue en Dieu et cet homme. Il continue en disant, sa parole est la semence. Pour le prouver, ouvrons Luc chapitre 8 et lisons à partir du verset 11 et voyons si c'est vrai ou non. Et la Bible, donc que la Bible témoigne que sa parole est la semence. Je veux lire juste un extrait de Luc 8, le verset 11. Luc 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. J'ai lu les versets précédents dans la précipitation. Et il est dit que ici que en semant, une partie tomba le long du chemin et fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. D'autres sont tombés sur un sol rocailleux, et après avoir germé, ils ont séché parce qu'il manquait d'humidité. C'est écrit au verset 6, il manquait d'humidité. Ensuite, d'autres encore sont tombés au milieu des épines, au verset 7, et les épines ont poussé avec eux et les ont étouffés. Maintenant arrive ce que j'ai remarqué aujourd'hui. Mais d'autres, verset 8, sont tombés dans la bonne terre, ont poussé et ont produit au centuple. En disant ces mots, il s'est exclamé à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre. Non pas aux trois premiers, ni au nombre de fois qu'elle s'y est trouvée, mais à la dernière fois, c'est là qu'il s'est exclamé, c'est-à-dire à celle où la parole est tombée comme une semence sur une bonne terre et a donné un rendement de 100 fois. À ces mots, il s'est exclamé à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre. Où est-il écrit la même chose? Où est-il écrit la même chose? Cette fois en deux chapitres, dans Apocalypse 2 et 3. Que celui qui a des oreilles pour entendre, ce que l'Esprit dit aux églises. Et ici, le Seigneur, tout comme il est venu au point est venu au groupe qui a ouvert le cœur et le terrain était préparé, le sol était préparé et la parole pouvait tomber pleinement comme une semence. Quand il a vu cela, il s'est exclamé à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Rien ne pouvait être fait avec les autres. La semence était là, mais elle n'a pas donné de fruits. Ce sont des personnes que Dieu a destinées à porter du fruit. Et j'espère que par grâce, nous leur appartenons. Poursuivons la lecture à la page 20. Après, le milieu. Jésus est la parole de Dieu. Il a été offert. Son côté s'est ouvert pour que la vie qui est en fait l'esprit, l'eau, puisse jaillir. Lorsque l'esprit vient sur la semence de Dieu, il fait naître la vie de la semence. Quand elle donne naissance à autre chose, ça veut dire qu'il y a une autre semence présente. Amen. Comprenez-vous cela? Lorsque l'Esprit de Dieu descend pour arroser la semence, et si c'est la semence qui est arrosée, alors cela donnera la vie de la semence. Est-ce que cela est clair? Il fait naître la vie de la semence parce que c'est ce qu'il lui est donné de faire. C'est pour cette raison que l'Esprit a été donné. Je crois que la Bible est la parole, la vérité tout entière. Et que Jésus est la parole manifestée. Lui et sa parole sont une seule et même chose. Qu'est-ce qu'il était? Il était la semence. Nous y viendrons aussi, dans un moment peut-être, frère Branham aussi, lorsque le Seigneur a donné la première promesse, quelle était-elle? Il s'agissait de la semence de la femme qui viendrait écraser la tête du serpent. Il nous a rachetés. Jésus-Christ était cette semence de Dieu et il a écrasé la tête du serpent. Il nous a rachetés et libérés pour nous sortir de cette corruption et finalement nous remettre dans l'incorruptibilité. À la page 21, juste avant le milieu. Cette vie vient sur la semence originale, sur la véritable Église et par la naissance, par la matrice de son épouse, il fait renaître la vie. Il s'agit que toujours de nouveau, la vie nouvelle surgisse. C'est comme une matrice. Notre cœur est ce qu'il reçoit la parole du Seigneur et la garde. Mais elle donne naissance à une nouvelle vie. Oh, c'est si précieux et glorieux. Je vous laisse un peu de temps pour que vous puissiez vous en imprégner et le laisser pénétrer. Il est la semence. Il est la semence qui sort par la parole de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Là est la semence. Il y a la semence parce que la parole a été reçue. Quelque chose de glorieux. D'inexprimablement profond et vrai. De même que la semence divine a d'abord été apportée à Marie sous la forme de la parole, de la promesse. De même, la semence divine de la parole nous est apportée sous la forme de la promesse. Bénis ceux qui ont cru, ceux qui ont reçu, ceux qui ont cru, ceux qui n'ont pas mélangé, mais qui peuvent simplement dire qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Là, il y a la semence. Là, elle est parce que là, la parole a été reçue. Non mélangée. Je ne connais aucun homme. Je ne connais aucune pensée humaine. C'est la parole de Dieu. Une rencontre avec celui qui a porté la promesse. Ainsi en est-il pour nous. Je crois que Dieu nous a arrachés de la bouche des hommes et que nous pouvons nous asseoir aux pieds de Jésus pour entendre de sa bouche ses paroles bénies. Nous devons et ne pouvons plus écouter des hommes. Une fois que nous l'avons écouté, lui le Seigneur, tout le reste rebondit sur nous. Ça rebondit, il n'y a aucune réception. Alors sa parole nous est devenue plus précieuse que tout ce qui est ici-bas. Elle est comme un trésor d'or que nous avons trouvé. Dieu nous garde sa parole. Et Dieu nous garde dans sa parole. Alors nous connaîtrons alors la perfection. Nous achèverons le but, nous atteindrons le but. Je continue à dire, Jésus est la parole manifestée. Lui et la parole sont une seule et même chose. C'est pourquoi elle s'est manifestée si parfaitement en lui. C'est pourquoi Dieu s'est révélé si parfaitement en Jésus. Parce que lui, la semence parole, était le germe parole, lui-même, le germe qui est dans la semence. Est la vie dans la semence. Vous comprenez ça? Il était la parole de Dieu, le germe de la parole de Dieu, le germe est l'esprit, le germe correspond à l'eau. Il fallait ouvrir Jésus, son côté, pour que de cet endroit, pour que la semence, la vie puisse être libérée, afin que la semence à venir soit arrosée. Vous comprenez cela? Si je vous le demande personnellement et que je ne le lis pas, vous comprenez? Je ne sais pas à quel point la main serait forte sans le lire. Mais nous disons simplement oui, même si ce n'est pas encore tout à fait clair, n'est-ce pas? Cela devient de plus en plus clair. Il va de clarté. Il nous conduit de clarté en clarté et de gloire en gloire. Dans chaque semence, il y a quelque part un germe grâce auquel une nouvelle vie peut naître. Et c'est ce que frère Branham veut exprimer ici. Il en a été de même avec notre Seigneur. Il est dit plus loin dans ce texte. Ils recevront la parole et s'y attacheront. J'enverrai l'Esprit pour l'arroser et elle produira la même chose. Elle produira des miracles. Elle produira la puissance de Dieu. Elle produira et ne reniera. Elle produira tout et ne reniera rien. Car elle est une semence parente à lui, la semence. Apparentée à lui, la semence. Vous avez sûrement remarqué très brièvement ce que frère Branham a dit ici en une phrase. Son côté a été ouvert. Et tout comme Adam, lorsque son côté a été ouvert, Ève a été sortie de lui et ensuite remise, ramenée à lui. Et il a dit, chair de ma chair et eau de mes os. Ainsi le côté de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été ouvert sur la croix pour sortir de lui la semence divine. Toute la semence divine, tous les fils et les filles de Dieu, pour les racheter, pour les délivrer et les libérer. Nous sommes de lui, sommes sortis de lui et nous serons comme lui lorsque nous le verrons. Nous serons semblables à lui lorsqu'il reviendra pour prendre des siens. C'est Ça, c'est le sort de l'épouse. Et n'oubliez pas cette pensée dans votre vie et dites-la à tout le monde. Dites-la à tout le monde. Les vierges sages garderont la parole de Dieu dans sa forme originale. Elles n'interpréteront pas, elles croiront et trouveront le repos en Dieu. De la page 22, ci-dessus les deux lignes. Vous voyez ce que je veux dire? Il est le germe qui est sorti de la semence. Il est la parole de Dieu parfaitement révélée. Le paragraphe suivant. Attendez que nous incluions l'épouse ici. C'est pourquoi je crois ce que je crois. Cela doit se trouver dans cette parole. C'est encore vrai pour moi aujourd'hui. Ce que je crois doit être trouvé dans cette parole. Et puis je sais aussi pourquoi je le crois. C'est parce que Dieu l'a dit. La foi est alors ancrée dans cela. Paragraphe suivant. Vous ne pouvez pas être semence et être en désaccord avec la parole. Car la parole est la semence. Si vous êtes la parole, comment pouvez-vous être en désaccord avec elle? Vous seriez alors en désaccord avec vous-même. Vous combattriez vos propres objectifs. Oui, en effet, il en est ainsi. Si nous sommes de la semence de la parole, alors nous devons être en accord avec la parole. Si nous avons une attitude contraire, comment la parole sera-t-elle vraie ou accomplie en nous? Vraie en nous ou accomplie en nous? Dernier paragraphe. Il était donc Dieu. Il était la semence. C'est peut-être raison que Dieu pouvait agir par lui. Ce qu'il disait, qu'a-t-il dit quand il était ici, sur terre? Je ne fais rien, si ce n'est que le Père ne me le montre premièrement. Donc d'abord, parfaitement, tout est parfait. Tout ce qu'il a fait a toujours été confirmé par les Écritures. Il disait, cherchez, sondez les Écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Si je ne fais pas les œuvres qui y sont prédites, promises, annoncées dans la parole, alors je ne suis pas la semence originale. Mais si je fais les choses qui sont prédites, qui sont annoncées dans la parole, pourquoi ne me croyez-vous pas? Nous pouvons également prendre ces paroles à cœur. Je vais lire très brièvement avant de conclure. À la page 23. C'est pourquoi Jésus a été si parfaitement révélé. Dieu s'est révélé si parfaitement en Jésus parce qu'il était la parole de Dieu. Il était la parole de Dieu. C'est pourquoi il n'a pas pu faire naître autre chose que Dieu. Si Dieu est en vous, pouvez-vous être autre chose que Dieu? Jésus n'a-t-il pas dit que la parole de Dieu avait été adressée aux prophètes, transmise aux prophètes, et comment est-ce qu'ils ont été appelés? Puis, le paragraphe suivant, je suis la semence qui disait, qui devait venir, la semence de la femme. Quand le serpent l'avait déjà souillé, il dit, je te donnerai une semence. Il écrasera la tête du serpent. Il ramènera tout à nouveau. Amen. Je donnerai une semence à la femme. J'aimerais juste que tout le monde puisse voir ça. Je suis venu pour vaincre, pour réparer ce que l'ennemi avait fait. Ce que l'ennemi avait fait. La seule façon de le faire est de passer par une femme qui a cru la semence. Car une femme ne l'avait pas cru autrefois. Une femme a cru la parole, alors qu'une autre ne l'a pas fait. Je suis le vainqueur. Je suis venu apporter la vie par ma mort. Prendre sur moi la condamnation pour ce qu'elle a fait. La punition pour ce qu'elle a fait. Ma vie vous sera donnée. Elle est déversée en vous. Et vous serez fils et filles de Dieu si la semence est en vous. Nous croyons de tout notre cœur, de tout cœur, que Dieu a placé la semence de sa parole en nous. Nous croyons que les paroles de la promesse sont pour nous. Et nous croyons qu'elles ne doivent pas être mélangées et ne le seront pas non plus par les vierges sages. Ils prendront la parole de Dieu en eux comme la semence originelle, comme la semence originale, et attendront dans la patience que ce que Dieu a promis se produise réellement. Il ne me reste que deux passages à lire, peut-être trois. Tous les fils de Dieu, à la page 24, presque en haut, tous les fils de Dieu doivent être de la même espèce, certainement. Si nous sommes nés de nouveau par la parole et l'esprit, alors nous avons été ramenés à la parole parlée, comme il est dit dans Jean 3, que ramenés à la parole parlée, ramenés à la parole parlée, comme il est dit dans Jean 3. Que se passe-t-il lorsque vous êtes né d'eau et d'esprit, lorsque vous êtes né de l'eau et de l'esprit? Alors vous serez ramené exactement là où vous auriez dû être au commencement. C'est pour cela que Christ est mort, pour nous ramener au rang de fils de Dieu. Pour nous ramener au rang de fils de Dieu. Le paragraphe suivant. On en revient à la parole parlée. Alors, nous sommes la parole de Dieu manifestée. Jésus a dit, celui qui croit en moi, qui croit qui je suis, pourquoi je suis venu, dans quel but je l'accomplis, c'est-à-dire pour ramener les hommes à la foi en la parole de Dieu et de ne rien y ajouter. Celui-là fera aussi les œuvres que je fais. Voilà, c'est fait. Vous l'avez. Je crois qu'à la fin, nous ne passerons pas pour des imbéciles. Nous devrons peut-être attendre un certain temps maintenant. Et cela semble long. Et pas seulement cela, aussi difficile. Mais cela vaudra la peine d'attendre. Sans mélanger, sans interpréter. Mais en attendant vraiment que l'heure de Dieu sonne. Et alors, Dieu confirmera sa parole originale. Comme nous l'avons lu précédemment, Dieu, source de toute gloire, est attaché à sa parole. Et si nous la portons dans notre cœur, nous sommes en droit d'attendre l'accomplissement de ce qu'il a promis, de ce que Dieu a promis. Il ne peut pas être autrement. C'est impossible. C'est simplement ce qui appartient à la foi. C'est impossible autrement. Après tout, nous ne croyons pas n'importe quoi. Nous croyons ce que Dieu a dit. Les quatre dernières lignes. Eh bien, nous avons compris qu'il s'agit de la parole parlée. Alors, nous sommes la parole révélée de Dieu, la parole de Dieu manifestée. C'est ainsi que Dieu veut son Église, qu'il puisse se manifester lui-même. Comment peut-il se révéler? À moins se manifester, à moins que sa propre semence ne soit dans cette personne. Comment pouvez-vous avoir vos propres pensées et ensuite vous attendre à ce que Dieu puisse se manifester à travers vous? Ce n'est pas possible. Comment pouvez-vous avoir ou accepter votre propre foi et vos propres interprétations et dire donc, non, donc, tout ce qui t'appartient, tout ce qui vient de toi, toute imagination, toute pensée, tout ce qui vient de nous doit être mis de côté. Le silence en Dieu, Nous devons entrer dans le silence en Dieu, dans le repos. Le fait de porter dans ton cœur sa parole et de croire ce que dit l'Écriture et de compter sur lui pour l'accomplir, c'est ce qui te fera aller de l'avant. Jésus qui est la parole faite chair, en lui toute parole de promesse a aussi été confirmée à son tour. Et donc, enfin, de compte, frère Branham voit l'Église comme étant cette semence de la parole et ayant reçu la parole de la promesse pour que chaque promesse qui doit encore être accomplie s'accomplisse, puisse s'accomplir. Dernier passage pour ce soir, à la page 25, presque en bas de la page. Si un homme a la semence de Dieu en lui et qu'il est arrosé par l'Esprit de Dieu, il fera les mêmes œuvres que Jésus a faites. Il était la semence originale de Dieu. Et par sa mort, vous avez été ramenés à la semence originale de Dieu. Et si le même esprit qui était en lui est en vous, alors les mêmes œuvres se manifesteront. Vous ne le croyez pas. Vous ne le croyez pas? Alors regardons Jean 14, 12, si vous ne le croyez pas. Mais nous le croyons, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur l'a dit. Et nous y croyons malgré tout, même si nous ne le voyons pas maintenant. Dès qu'on le voit, on n'a plus besoin de croire. Alors nous sauterons comme des veaux gras. Maintenant, notre foi doit faire ses preuves. Une endurance inébranlable, la patience et tout ce qui va avec. Mais Dieu, qui a fait la promesse, est fidèle. Il l'accomplira. De même que la parole de Dieu a été connue et accomplie en Jésus-Christ, notre Sauveur. De même, la parole de la promesse s'accomplira en tous les rachetés. Tous les rachetés. Gloire à Dieu. Merci. Grâce soit rendue à Dieu pour sa parole. Grâce soit rendue à Dieu pour une telle prédication. Je crois qu'elle nous a aidés, elle nous a fortifiés. Elle nous a donné de la lumière et de la clarté. Elle nous a renforcés à nouveau pour rester et demeurer dans la parole et ne rien ajouter d'autre à la parole. Pas un seul mot et rien retranché afin que nous puissions participer à ce que Dieu va encore faire. Loué soit son nom. Amen. Levons-nous et prions. Peut-être que nous chantons ce refrain tel que je suis sans rien de moi. Tel que je suis sans rien de moi. Tel que je suis, tel doit être comme je suis, il doit en être ainsi. Pas ma force, toi seul. Ton sang me lave de mes péchés. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Je viens. Je viens. Père céleste, nous te remercions ensemble pour ta précieuse et sainte parole. Nous te remercions ensemble, Seigneur, pour ton esclave, serviteur et prophète que tu as envoyé, que tu avais envoyé, Seigneur, pour mettre ainsi ta parole sur le chandelier, pour la porter en lumière, pour la recevoir, pour que ton peuple puisse la recevoir comme elle est écrite, Seigneur. Nous ne voulons rien ajouter et non plus rien retrancher à ta parole. Aide ton peuple, aide-moi. Aie pitié de nous tous, Seigneur, pour que nous soyons attentifs à ta parole, que nous ne l'interprétions pas, Seigneur, mais que nous la croyons, Seigneur, que nous la croyons, Seigneur, du plus profond de notre cœur. Nous t'adorons et te remercions, Seigneur, de nous avoir nourris ce soir, de nous avoir abreuvés afin que nous puissions entendre, Seigneur, mon Dieu, et que nos oreilles ne soient pas fermées, mais qu'elles soient ouvertes. Afin que nous puissions entendre ce qui doit être entendu, Seigneur, et que nous puissions recevoir ce qui doit être reçu. Seigneur, reçois la gloire et reçois les louanges et l'adoration. Seigneur, Seigneur, tu es merveilleux. Tu t'es révélé glorieusement. Loué sois-tu pour ta révélation. Loué sois-tu pour ta parole. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom saint de Jésus. Amen. Amen.